selon Hubert Védrine.
Bonjour Hubert Védrine, quelle attitude la France peut-elle adopter dans l'opposition entre l'Iran et l'Arabie Saoudite ?
Avant d'en venir au point de la France, des Occidentaux d'ailleurs en général, je crois qu'il faut souligner qu'au moment même où il semblait que les coalitions contre Daesh commençaient non pas à s'harmoniser complètement, mais à converger dans leurs actions, la coalition, on va dire, occidentalo-sunnite, la coalition spécifiquement arabo-sunnite relancée par le fils du roi d'Arabie actuel, d'autre part la coalition, on peut dire, entre la Russie et l'Iran. Donc tout ça semblait progresser. Daesh semblait sur la défensive. Ils ont perdu 15% de territoire à peu près en un an, même s'ils tentent des opérations un peu partout dans le monde, à l'extérieur. Donc à ce moment-là, c'était relativement encourageant. On en avait parlé d'ailleurs à un moment donné en décembre. À ce moment-là, c'est là où ressurgit un antagonisme extrêmement ancien dans l'islam, naturellement, entre les sunnites majoritaires et les chiites, ce qui veut dire sectaires, mais ça remonte tout à fait au début de l'islam. C'était important, mais pas tout le temps non plus. On peut pas lire toute l'histoire du monde arabe, toute l'histoire du monde musulman, uniquement à travers ce clivage. À l'époque plus récente, plus contemporaine, où il y avait des régimes arabes laïques, certes tout à fait durs par ailleurs, mais enfin, laïques, comme en Irak, comme en Syrie, puis même dans les autres pays qui ont été gagnés depuis par l'extrémisme, il y avait une dimension qui était plus forte, comme par exemple l'antagonisme entre les pays nationalistes, l'antagonisme entre les deux branches du parti basse, vous voyez, entre la Syrie et l'Irak. Donc pendant longtemps, c'est ça qui a structuré, donc on ne peut pas dire que l'affrontement entre les sunnites et les chiites était absolument permanent, il était sous-jacent. On voyait que ça ressortait, ça jouait un rôle dans la politique de tel ou tel président, le choix des personnalités dans les gouvernements. Enfin, c'était pas central et c'était pas violent et c'était pas flagrant comme maintenant. Alors évidemment, à partir de la révolution islamique en Iran en 79, avec un Iran très très prosélyte, donc une puissance révolutionnaire, déstabilisatrice, une théocratie chiite, et d'autre part l'époque contemporaine la même, où l'Arabie a répandu et financé dans le monde musulman tout entier, et même ailleurs, où il y a des communautés musulmanes, le wahhabisme, qui est une interprétation extrêmement dure et rigoriste et primaire, on va dire, de l'islam. Évidemment, ça a joué un rôle. Et on a bien vu ces dernières années, avant la présidence Obama, que les Saoudiens étaient obsédés par la menace nucléaire iranienne, mais en réalité, derrière cette rhétorique, obsédés par l'idée que l'Iran puisse retrouver un genre de rôle, genre gendarme du Golfe, qu'ils avaient à l'époque du Saoudien. Donc, c'est ancien, ça n'a pas été toujours au premier plan, ça a remonté progressivement au fur et à mesure que les pays laïcs nationalistes s'affaiblissaient, et comme les printemps arabes ont mal tourné, ça fait tout exploser, c'est revenu au premier plan. Mais on pouvait penser que l'obligation de lutter contre Daesh, pas pour des raisons d'alliance ou d'amitié mutuelle, mais parce que les Iraniens ont des raisons de lutter contre, les Saoudiens ont des raisons parce qu'ils ont un peu alimenté le Frankenstein qui s'est retourné contre eux, c'était plutôt en bonne voie. Et puis voilà qu'éclate une crise absolument aiguë, parce que les Saoudiens, donc, qui ont exécuté 44, je crois, ou 43, donc, leaders djihadistes, ont exécuté, pour c'est macabre, hein, donc un leader saoudien chiite qui ne prenait pas la violence, mais qui était extrêmement hostile à la dynastie, en estimant qu'il n'était pas digne, assez légitime pour garder les lieux saints, donc contestation de la dynastie saoudienne. Donc ils ont fait une sorte de paquet, c'est horrible à dire, hein, et l'exécution de ce responsable chiite en Arabie a entraîné une rupture des relations, qui était en train de se réaméliorer, non seulement avec l'Iran, mais également avec l'Irak, qui est donc à majorité chiite et dirigé par des chiites. Donc on se retrouve dans une crise absolument aiguë, avec l'impression d'une fuite en avant de l'Arabie, notamment sous l'impulsion du fils, qui conduit les opérations militaires au Yémen, qui semblent très mal tournées, même du point de vue des Saoudiens, ils le disent, même dans la presse saoudienne, ça se dit, alors que tout ça est extrêmement contrôlé. Donc on est très 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 loin d'une sorte d'accord de Westphalie, comme il y a eu en Europe il y a quelques siècles, après les abominables guerres de religion. Alors que peuvent faire les autres ? Moi, je ne suis pas du tout choqué que la France profite intelligemment du fait que l'Arabie et les autres soient furieux contre les États-Unis parce qu'Obama a lâché Moubarak, parce qu'Obama a réintroduit l'Iran dans le jeu, etc. Bon, qu'on en profite, qu'on vende des matériels français, des avions, pourquoi pas, c'est le jeu. Là où il y aurait un risque, on n'en est pas là, hein, mais il faut quand même faire attention. Ce serait qu'on soit engagé dans une sorte de un peu trop, quoi, aux côtés d'une sorte de bloc arabo-sunnite, pour lesquels les perspectives ne sont pas évidentes. Il me semble que ce que l'on peut faire de plus utile, du côté américain et aussi du côté français, c'est d'avoir les moins mauvais rapports possibles avec les deux blocs, le bloc sunnite et le bloc chiite, puisqu'on est obligé de parler en ces termes maintenant, de les accompagner prudemment, de jamais aller jusqu'à des alliances, et de rester disponible pour le moment où ces pays auront besoin peut-être de pays capables de parler utilement, intelligemment aux deux côtés. Donc ça veut dire réactiver un peu, nous, nos relations Iran.
Merci beaucoup, Hubert Védrine.